Vortex et Rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes à l'écoute de Campus Grenoble 90.8 et Radio Dragon 104.4 et 96.8.
Aujourd'hui, on va vous parler du roman Babel de l'autrice R.F. Kuang, édité en 2022 aux États-Unis.
Ce roman a été traduit en français par Michel Tradel en 2023. C'est un assez long livre, alors sachez qu'on ne peut pas vraiment en parler sans risquer de vous spoiler un peu l'histoire, de parler de choses qui se passent dans des parties assez avancées du roman.
Rebecca F. Kuang est née à Canton en Chine en 1996. À l'âge de 4 ans, elle déménage avec sa famille aux États-Unis, grandit à Dallas au Texas et étudie ensuite l'histoire internationale avec un focus sur l'Asie. Parallèlement, elle suit différents cours d'écriture. À 19 ans, elle passe une année sabbatique en Chine, où elle enseigne notamment l'art du débat et commence à écrire son premier roman, The Poppy War, La guerre du pavot. Ce premier tome d'une trilogie de fantasy du même nom est publié alors qu'elle a à peine 22 ans. Les tomes 2 et 3 sortent en 2019 et 2020. Ses débuts littéraires sont très remarqués par les critiques et lui valent plusieurs nominations et 2 prix. En 2018, Kuang obtient une bourse Marshall, considérée comme la plus prestigieuse des bourses aux États-Unis, qui lui permet de poursuivre ses études supérieures au Royaume-Uni. Elle est donc diplômée en sinologie et en philosophie chinoise, respectivement à Cambridge et à Oxford. En 2022, elle publie son 4e roman, qui est le sujet de notre émission aujourd'hui, et dont le titre complet donne en français « Babel ou la nécessité de la violence ». Histoire secrète de la révolution des traducteurs d'Oxford. L'écriture de Kuang étant extrêmement prolifique, en 2022 paraît son roman Yellow Face, suivi en 2025 de Catabasis. Et elle annonce d'ores et déjà avoir signé pour ses 4 romans suivants. Kuang, qui est mariée à son petit ami du lycée, prépare actuellement un doctorat en langue et littérature d'Asie orientale à Yale, pour rajouter dans la liste des universités prestigieuses. Et elle affirme vouloir consacrer sa vie autant à l'écriture qu'à l'enseignement et la recherche.
L'histoire de Babel se déroule dans l'université d'Oxford en Angleterre au début du 19e siècle, dans un univers alternatif. L'empire colonial britannique tire sa puissance de sa maîtrise de l'argentogravure, la magie contenue dans des barres d'argent. Le métal est gravé de plusieurs mots qui ont des sens similaires dans différentes langues, mais pas une signification équivalente. Cette différence est transformée en pouvoir par l'argent et a permis à l'Empire britannique de développer des armes, des moyens de transport, une industrie, etc. Babel raconte l'histoire d'un orphelin ayant grandi en Chine et parlant aussi l'anglais. À la mort de sa famille, il est récupéré par un professeur britannique, puis rebaptisé Robin Swift. Il doit alors apprendre le grec classique et le latin pour pouvoir entrer dans l'Institut de traduction d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. En entrant à l'université, il rencontre des camarades et comprend que sa connaissance du chinois fait de lui une ressource précieuse pour l'Empire. Celui-ci a en effet besoin d'étudiants et étudiantes qui maîtrisent le plus de langues différentes pour développer l'argentogravure et asseoir un pouvoir colonial qui a servi des peuples et exploite des classes défavorisées. Robin sera alors déchiré entre sa passion des langues, son confort à l'université d'élite et sa soif de justice. Babel, de R.F. Kuang, est clairement un roman de fantasy avec la magie de l'argentogravure. Mais dans ce roman, le processus magique est expliqué de manière quasi scientifique. En fait, les descriptions sont assez proches d'une narration de science-fiction. Il y a vraiment un côté geek dans la manière de parler de la traduction et du fonctionnement de l'argentogravure. Et c'est assez rare dans la fantasy de trouver une explication du fonctionnement de la magie.
Vous soulevez là le problème de l'endurance. Plusieurs facteurs affectent la durée de l'effet. D'abord, la concentration de l'argent utilisé et sa quantité. Ces deux barcies sont faites d'argent pur à plus de 90%, le reste étant un alliage de cuivre souvent utilisé pour frapper des pièces de monnaie. Mais la barre triacle est plus longue de 20%, si bien qu'elle durera quelques mois de plus, en fonction de la fréquence et de l'intensité de l'usage.
Un autre côté un peu geek de ce roman, c'est la quantité de notes en bas de page. Et c'est vraiment marrant la manière dont elles sont écrites, parce qu'elles viennent compléter ce que dit le personnage principal, parce qu'elles sont écrites du point de vue de quelqu'un qui en sait plus que ce dernier. Une partie d'entre elles concerne le fonctionnement de l'école et de l'argentogravure, mais beaucoup de notes en bas de page donnent des précisions à propos du sens et de la traduction de certains mots, des précisions littéraires, ou alors concernent le contexte colonial de l'Empire britannique.
De fait, dans la foulée de la libération d'Haïti, les Anglais commencèrent à envisager d'importer des ouvriers d'autres origines ethniques, comme les Chinois, un peuple sobre, patient et industrieux, pour éventuellement supplier les esclaves africains. L'expérience Fortitude de 1806 tenta d'établir une colonie de 200 ouvriers chinois à Trinidad pour créer une barrière entre les Noirs et nous. La colonie ne prospéra pas, et la plupart des ouvriers regagnèrent vite leur Chine natale. Toutefois, l'idée de remplacer le labeur africain par le labeur chinois conserverait son attrait pour les patrons britanniques et referait continuellement surface durant tout le XIXe siècle.
Ce mélange de notes en bas de page, fictives et réelles, génère un petit flou entre ce qui est de l'ordre historique et ce qui est romancé. Et ça m'a par exemple poussé à faire des recherches pour mieux comprendre l'histoire de l'Empire britannique. L'Empire britannique et le colonialisme sont des sujets centraux du roman de Kwang. Elle y dénonce à la fois les relations coloniales que le Royaume-Uni impose à l'Inde et ses relations impérialistes avec la Chine. L'autrice met par exemple en scène des discussions entre Leti, qui défend la colonisation de l'Inde, son père ayant été amiral à Calcutta, et Rami, originaire de cette même ville et qui combat le colonialisme.
Et ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de bon côté aussi, disait-elle. Il y a un tas d'Indiens dans l'administration civile, dès l'instant qu'ils sont qualifiés, oui, pour peu que « qualifiés » désigne une élite qui parle la langue et lèche les bottes des Anglais, renvoya Rami. On n'est pas gouverné, on est exploité. Ce qui arrive à mon pays n'est rien d'autre que du vol. Ce n'est pas le libre-échange, c'est une saignée financière, un sac, un pillage. Nous n'avons jamais eu besoin de leur aide. Ils n'ont inventé cette histoire qu'à cause de leur complexe de supériorité mal placé.
Dans son roman Babel, Kwang aborde aussi la question de l'esclavage en confrontant plusieurs points de vue sur ce sujet et notamment la manière dont il est banalisé par les Britanniques. Mais surtout, elle décrit bien comment l'Angleterre a prolongé cette domination avec une articulation entre la colonisation en Inde et les comptoirs en Chine.
Robin visualisa alors une grande toile d'araignée. Du coton voyageant d'Inde en Angleterre, de l'opium d'Inde en Chine, de l'argent devenant thé et porcelaine en Chine, et le tout affluant à nouveau en Grande-Bretagne. Cela paraissait tellement abstrait, de simples catégories d'usage, d'échange et de valeur, jusqu'à ce que cela ne le soit plus. Jusqu'à ce qu'on réalise dans quelle toile on vivait et quelles exploitations exigeaient l'existence qu'on menait. Jusqu'à ce qu'on voit se dresser au-dessus de tout cela le spectre du travail colonial, de la souffrance coloniale.
Et puis l'Angleterre utilise la maîtrise des langues pour asseoir sa domination, d'une part comme moyen de contrôler les peuples, mais aussi pour développer l'argentogravure.
Mais les vraies promesses viennent des colonies et semi-colonies. Robin est la Chine, Rami est l'Inde. Vous êtes un territoire encore inexploré, les garçons. Vous êtes le matériau que tout le monde se dispute. « Tu en parles comme d'une ressource, » remarqua Rami. Ma foi, oui, bien sûr. La langue est une ressource au même titre que l'or et l'argent.
Et plus loin ?
Vous voyez, reprit Anthony, les langues ne sont pas seulement faites de mots, ce sont des modes de vision du monde, les clés de la civilisation. Et c'est une connaissance qui mérite qu'on tue pour elle.
Le sujet de l'impérialisme s'exprime aussi dans l'intimité des personnages. D'une certaine manière, la relation entre Robin et Lovell, son tuteur qui l'a recueilli à Canton, est un reflet de la relation entre la Chine et l'Angleterre. Et cela montre bien aussi comment la violence et la domination impérialiste, comment le racisme s'expriment et se reproduisent au niveau interindividuel.
Il soupira. J'espérais, grâce au rapport de Mademoiselle Slate, que tu serais diligent et assidu au travail. Je constate que j'avais tort. Paresse et duperie sont des traits communs parmi les tiens. Voilà pourquoi la Chine reste un pays indolent et arriéré, tandis que ses voisins profitent du progrès. Vous êtes par nature idiot, dépourvu de volonté et peu enclin à travailler dur. Il te faut combattre ces traits, Robin. Tu dois apprendre à surmonter la pollution de ton sang. J'ai beaucoup misé sur ta capacité à y parvenir. Prouve-moi que cela valait le coup, ou gagne toi-même de quoi payer ton voyage de retour.
Dans le roman de Kwang, Robin a été arraché à la Chine pour devenir traducteur. Il reçoit alors une éducation dans une villa bourgeoise, puis intègre l'université d'Oxford. À l'université, il étudie grâce à une bourse qui lui permet de vivre relativement aisément. On attend alors de lui et de ses camarades d'être reconnaissants et de se soumettre à l'institution éologique impérialiste et raciste.
Une centaine d'arguments nageaient dans la tête de Robin. Qu'il n'avait pas sollicité les privilèges d'Oxford, qu'il n'avait jamais demandé à être arraché à Canton, que la générosité de l'université ne pouvait entraîner sa loyauté constante et absolue à la couronne, à ses projets coloniaux. Ou qu'il s'agissait sinon d'une forme d'esclavage particulière à laquelle il n'avait jamais acquiescé. Qu'il n'avait jamais souhaité ce destin avant qu'on ne le lui impose, qu'on ne le choisisse pour lui. Qu'il ne savait pas quelle vie il aurait choisi librement, celle-ci ou bien celle qu'il aurait connue à Canton, au milieu de gens qui lui ressemblaient par la physionomie et par la langue. Mais quelle importance cela avait-il ? Lowell n'en éprouverait aucune compassion. Tout ce qui comptait était la culpabilité de son pupille.
Ces quelques privilèges exceptionnels servent à mieux diviser et permettent du même coup de perpétuer les discriminations et l'exclusion, que ce soit sur les questions du sexisme ou sur celles du racisme. Oui, parce que l'Institut de traduction de Babel est la seule partie de l'Université d'Oxford qui accepte des femmes et des personnes racisées.
Toutefois, en certaines matières importantes, il restait des étrangers. Nul ne servait Rami dans aucun de leurs pubs favoris s'il arrivait le premier. Letty et Victoire ne pouvaient emprunter de livres à la bibliothèque sans la présence d'un étudiant mâle pour se porter garant d'elle. Les boutiquiers prenaient Victoire pour la bonne de Letty ou de Robin. Les portiers les priaient régulièrement, tous les quatre, de bien vouloir éviter de marcher sur la pelouse, car elle était interdite. Alors que d'autres garçons, tout autour d'eux, ne se gênait pas pour écraser l'herbe prétendument si délicate.
L'histoire personnelle de Robin l'a amené au désir de faire pleinement partie de la société et à un besoin de reconnaissance. Il est perpétuellement déchiré entre un besoin d'assimilation et sa révolte vis-à-vis des inégalités.
Comment l'expliquer ? Babel représentait davantage que le confort matériel. Grâce à Babel, il avait sa place en Angleterre. Il n'était pas obligé de mendier dans les rues de Canton. Babel était le seul endroit où ses talents avaient une importance. Babel était la sécurité. Tout cela était peut-être moralement discutable, oui, mais était-il si mal d'avoir envie de survivre ?
Comme on l'a entendu dans cet extrait, le roman Babel articule l'analyse du racisme avec aussi la question des rapports de classe. Il met régulièrement en scène des violences racistes et des violences de classe.
Vous êtes toujours à l'écoute de Vortex et Rotative sur Radio Campus Grenoble ou Radio Dragon.
Et aujourd'hui, on vous parle du roman Babel de R.F. Kuang.
Le roman Babel est aussi l'histoire d'une amitié. Dès les premiers jours à Oxford, le protagoniste Robin rencontre d'autres étudiantes et étudiants qui viennent d'arriver à Babel et qui ont des parcours similaires aux siens. Il y a Rami, musulman originaire de Calcutta, amené à 14 ans par un aristocrate britannique en Angleterre, et Victoire, née à Haïti d'une mère qui était servante d'aristocrates français, lesquels ont fini par l'amener en France. Ce trio est complété par Letty, fille d'un amiral, ayant donc grandi dans la haute société britannique, la seule blanche de la bande, mais qui a dû se battre pour pouvoir faire des études en tant que fille. Dès leur première rencontre, cette bande noue des liens émotionnels très forts.
Avant d'avoir terminé leur thé, ils étaient tous quasi amoureux les uns des autres. Pas encore tout à fait, car le véritable amour demande du temps et des souvenirs, mais ils en étaient aussi près que pouvait les conduire une première impression. Le jour n'était pas encore venu où Rami porterait fièrement les écharpes mal tricotées par Victoire, où Robin saurait exactement combien de temps Rami aimait que son thé infuse, afin de le préparer en vue de son inévitable arrivée en retard au restaurant après son cours d'arabe. Ni où tous s'attendraient à ce que Letty vienne en cours avec un sac en papier empli de biscuits au citron, parce qu'on était mercredi matin et que c'était le jour des biscuits au citron à la pâtisserie Taylor. Sur le moment, toutefois, ils virent sans l'ombre d'un doute quel genre d'amis ils allaient devenir, et aimer cette vision s'en approchait déjà.
Leur amitié est d'autant plus forte qu'ils partagent un vécu d'exclusion à Oxford. Que ce soit pour des raisons racistes ou sexistes, et tout en jouissant quand même d'une partie des privilèges que confère le statut d'étudiant d'une université de prestige, on leur rappelle très régulièrement qu'elles ne font pas partie véritablement de cette élite. Et ces expériences-là les rapprochent.
Un point commun les unissait. Sans Babel, ils n'avaient nulle part où aller dans ce pays. Choisis pour bénéficier de privilèges jusqu'alors inimaginables, financés par des hommes riches et puissants dont ils ne comprenaient pas pleinement les mobiles, ils avaient la conscience aiguë de pouvoir tout perdre, à tout moment. Cette précarité leur donnait de l'audace autant qu'elle les terrifiait. Ils détenaient les clés du royaume, ils ne voulaient pas les perdre.
Les relations qui se nouent entre ces quatre protagonistes permettent à l'autrice d'explorer la complexité des vécus que peuvent créer l'oppression raciste et patriarcale, et aussi les stratégies pour y faire face. Autant les similarités de leur vécu créent de fortes complicités à des moments, autant Rami, Robin, Victoire et Letty ont des réactions différentes à ces violences. Parfois, cela engendre des désaccords véhéments, parfois, elles s'inspirent les unes des autres. Souvent, Letty est complètement aveugle aux réalités racistes qui marquent le quotidien de ses amis. Des fois, Robin se montre insensible aux rapports patriarcaux que subissent les filles à l'université. Tout ça, Kuang le discute et questionne dans son roman, parfois par des réflexions intimes d'un personnage, parfois dans des débats animés entre les amis.
Toi, personne ne t'a jamais demandé si on t'a passé la peau au brou de noix. Rami, c'est vrai ? Les yeux de Letty s'agrandirent. Mais je n'ai jamais entendu... Et elle est très belle, ta peau. On ne t'a jamais dit non plus que tu n'avais pas le droit d'entrer dans une boutique pour des raisons peu claires, continua-t-il. On n'a jamais fait un grand détour pour éviter de te croiser de trop près sur le trottoir, comme si tu avais des puces. Mais ça, c'est juste le fait d'oxoniens provinciaux stupides, protesta Letty. Ça ne veut pas dire... Je sais que tu ne le vois pas, la coupa Rami, et je ne m'attends pas à ce que ça change. Ce n'est pas ton rôle dans la vie.
D'une certaine manière, on pourrait qualifier le roman Babel de R.F. Kuang comme une sorte de Harry Potter décolonial. Évidemment, l'histoire est assez différente, mais il s'agit bien d'un roman du genre de la Dark Academia, autour de l'imaginaire d'une université un peu gothique avec ses bibliothèques sombres et l'apprentissage de la magie. Au premier abord, ça fait aussi un peu roman pour ados, et on y suit l'évolution d'une bande de potes. Ce qui distingue, à mon avis, le roman Babel, c'est que Kwang y problématise des discriminations structurelles. Oxford est réservé à une élite, et si dans d'autres romans de ce genre, on peut trouver occasionnellement un personnage pauvre, par exemple, qui, pour X raisons individuelles, a pu accéder au privilège d'étudier dans une université aussi prestigieuse, dans Babel, le fonctionnement même de l'université est basé sur l'exploitation des sujets colonisés.
Voilà pourquoi vous êtes si précieux tous les trois. Anthony les désigna l'un après l'autre, à l'exception de Letty. Vous parlez des langues qui n'ont pas encore été pressées comme des citrons. Et moi alors ? Demanda Letty, indignée. Eh bien, tu feras l'affaire un moment, mais seulement parce que la Grande-Bretagne a développé son identité nationale en opposition avec la France.
Le racisme de l'institution devient aussi visible dans le traitement de certains textes, comme par exemple les poèmes du Vaudou, que Victoire est forcée à traduire du créole pour son professeur, qui, lui, ne montre que du mépris pour cet héritage sacré. Kwang thématise aussi les liens entre la recherche et l'industrie militaire, ainsi que la question des profits, qui ne manque pas de rappeler des problématiques similaires de notre présent.
Tu finiras par t'apercevoir que ton éthique est incompatible avec ce qu'on te demande. Qu'est-ce qui se passera quand on t'orientera vers la recherche militaire ? Quand on t'enverra à la frontière de la Nouvelle-Zélande ou de la colonie du Cap ? On ne peut pas éviter ces affectations-là ? Griffin éclata de rire. Plus de la moitié des commandes sont liées à des contrats militaires. Ils constituent une part nécessaire de la demande de titularisation. Et ils paient bien en plus.
Un autre sujet central du roman Babel de R.F. Kwang est évidemment la traduction. Le récit regorge de réflexions sur les langues, l'étymologie, l'évolution du sens des mots et les problématiques de traduction. D'ailleurs, la traduction du roman lui-même de l'anglais vers le français n'a pas dû être facile. Et le texte comprend plein de mots en anglais, allemand, mandarin, espagnol, créole et autres. Et si ça rajoute certainement au plaisir de la lecture, il n'est par contre pas du tout nécessaire de comprendre toutes ces langues pour suivre l'histoire.
Le lendemain matin, Robin et le professeur Lovell prirent un fiacre qu'ils quittèrent devant une station du centre de Londres au profit d'une diligence en partance pour Oxford. Comme ils attendaient de monter à bord, Robin passa le temps en essayant de deviner l'étymologie du mot « stagecoach », « diligence ». L'origine du mot « coach » était évidente, la même que celle de « coach ». Mais pourquoi « stage » ? Ce qui signifie « scène » en français. Était-ce parce que ce large chariot plat ressemblait un peu à une scène, parce que des troupes d'acteurs avaient voyagé dans un tel véhicule ou joué dessus ? C'était tiré par les cheveux. Une diligence pouvait évoquer beaucoup de choses, mais il ne voyait pas en vertu de quoi une scène, une estrade en public, aurait été l'association évidente. Pourquoi pas « basket coach » ou « omni coach » ? Parce que « stage » veut aussi dire « étape ». Et c'est normalement par étapes que se déroule le voyage, expliqua le professeur quand Robin donna sa langue au chat.
Pour une geek des langues comme moi, c'est assez trippant à lire. J'adore vraiment rencontrer ces personnages qui peuvent se perdre à tout moment dans des réflexions sur les mots et leur histoire. Ou encore les remarques critiques sur les traductions exotisantes ou racistes de certains textes classiques, tels que « Les mille et une nuits ».
Elle est très mauvaise. Rami agita un bras. Tu peux la mettre à la poubelle. D'une part, ce n'est même pas une traduction directe, elle est passée par le français avant l'anglais et ne ressemble absolument pas à l'original. En plus, Galland, Antoine Galland, le traducteur français, s'était efforcé de franciser les dialogues et d'éliminer tous les détails culturels susceptibles, selon lui, de désorienter le lecteur. Les concubines d'Haroun al-Rachid deviennent dames ses favorites. Ses favorites ! Comment tient-on ce mot-là à partir de concubine ? Et il coupe purement et simplement les passages les plus érotiques, sans parler d'injecter des explications culturelles quand ça lui chante. Tu as envie de lire un récit épique avec un français titubant qui te souffle dans le cou à chaque fois qu'il y a un passage osé, toi ?
Étant traductrice moi-même, je ne suis pourtant pas complètement d'accord avec la devise du roman qui, basée sur l'idée qu'aucune traduction ne peut rendre fidèlement l'original, est affichée en gros sur la première page.
Tout acte de traduction est un acte de trahison.
Il faut alors se rappeler que l'histoire de Babel ne joue pas aujourd'hui. Les théories linguistiques sur lesquelles sont basées les recherches et propos sur les langues dans le roman se situent bien dans la première moitié du XIXe siècle. Parmi les références citées par les profs à Babel, il y a par exemple Carl Wilhelm von Humboldt, qui ne déclare pas seulement, comme on nous l'explique dans une note en bas de page,
que la langue d'une culture est profondément liée aux capacités mentales et aux caractéristiques de ceux qui la parlent, ce qui explique pourquoi le latin et le grec se prêtent mieux au raisonnement intellectuel sophistiqué que, mettons, l'arabe.
Mais qui affirme aussi que les mots seraient
reliés aux concepts qu'ils décrivent par un principe invisible, intangible, un domaine mystique de sens et d'idées, émanant d'une pure énergie mentale.
Ces thèses dégoulinantes de suprématie blanche et d'un rapport complètement mystique au langage amènent les linguistes de Babel à parler d'un soi-disant sens pur aux mots. Concept qui me convainc guère, mais qui se trouve au cœur des pratiques d'argentogravure. Mais il s'agit d'une œuvre de fiction, et c'est bien comme le technobabillage dans la SF, un pseudo-langage scientifique pour rendre crédibles les mécanismes qui concernent ici la magie. Et la critique des rapports racistes et coloniaux étant au cœur de ce roman, je trouve ça plutôt réussi au final que la pensée scientifique fictionnelle soit basée sur des pensées racistes et mystiques historiques du XIXe siècle. Une critique qui me semble beaucoup plus sérieuse concerne l'évocation des langues chinoises. Personnellement, je n'y connais vraiment pas grand-chose et il est alors plutôt difficile de me former un avis éclairé là-dessus. Robin vient de la région Canton, où on parle donc le cantonais. J'ai trouvé différentes critiques qui reprochent à l'autrice d'utiliser pourtant avant tout le mandarin. Mais elle explique dans une note en bas de page qui, à mon sens, rend bien compte aussi des enjeux de pouvoir régissant les langues.
Sa famille ne s'étant que récemment installée au sud du pays, Robin avait appris en grandissant aussi bien le mandarin que le cantonais. Ce dernier, l'informa le professeur Lovell, pouvait désormais être oublié. Le mandarin était la langue de la cour impériale Qing à Pékin, la langue des fonctionnaires et des savants, donc le seul dialecte important. Ainsi, enjoignit-on à Robin d'oublier sa langue natale préférée.
Mais ce qui nous semblait d'autant plus étrange, c'est qu'à plein de moments dans le récit, il est question uniquement de chinois, sans aucune précision sur le dialecte précis. Dans ce roman qui apporte autant de précision sur les langues, cela surprend. Est-ce que c'est censé être le point de vue des personnages occidentaux qui ne font pas l'effort de la différenciation? Est-ce qu'il s'agit d'un choix éditorial pour ne pas en demander trop aux lectrices non familiarisées? Ou est-ce que Kwang s'est dit que c'est pas très important de rester précise là-dessus? Ce qui ne semble pas vraiment convaincant. Quoi qu'il en soit, les explications que Kwang donne des mots et expressions chinoises et leur écriture en idéogramme font bien partie de la richesse de ce roman.
C'était le 34e épisode de Vortex et Rotative. On vous a parlé du roman Babel de R.F. Kwang, publié aux États-Unis en 2022.
La traduction française de Michel Tradel paraît en 2023 chez De Saxus en grand format, puis les éditions PAL en sortent une version poche en 2025.
Dans sa version poche, le roman fait 784 pages.
L'émission est montée avec des bouts de musique de 33 aka San San, artiste électronique basé à Shanghai.
Au revoir.
Au revoir et à la prochaine.
Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.